Chaque mardi, retrouvez en exclusivité sur NVS Radio un acteur économique de notre territoire. Les rendez-vous de l'économie du territoire, c'est tous les mardis à 19h sur NVS Radio.
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'émission « Les rendez-vous de l'économie du territoire ». En cette nouvelle année 2025, je souhaite tout d'abord vous présenter mes vœux, vous souhaiter une belle et heureuse année 2025, je l'espère, à l'écoute de cette émission. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Florence Gouris, qui est sophrologue et qui va nous accompagner sur notre émission. Bonjour Florence.
Bonjour à tous. Et à moi de vous souhaiter une belle année avec un petit peu moins de soleil, de pluie au-dessus de nos têtes et un peu plus de soleil dans le cœur, parce que le soleil, on en a vraiment besoin.
Oui, on n'en a pas eu beaucoup l'année dernière. On espère que cette année, ça ira un peu mieux, mais on fera de toute façon avec ce que l'on aura.
On n'a pas le choix, et heureusement, choix. Parce qu'on arrivera encore à se battre pour la météo.
Oui,
si on avait
ça.
Le choix.
Alors Florence, vous êtes sophrologue et on aura l'occasion aussi d'en parler dans notre émission. Vous êtes aussi la présidente de France Alzheimer.
Oui.
Donc on va parler aujourd'hui de bien-être, mais on va aussi parler de cette maladie gravissime et qui touche de nombreuses familles dans notre territoire et partout dans le monde.
Oui.
Alors, dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est la sophrologie pour que chacun de nos auditeurs puisse bien comprendre de quoi on parle aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de médecine douce, on parle beaucoup de soins bien-être, mais de temps en temps, on finit par se perdre un petit peu dans toutes les méthodes qui existent. Alors, si vous pouvez juste nous expliquer ce qu'est la sophrologie.
Alors, la sophrologie, j'ai toujours un petit peu de mal à trouver le bon terme. On pourrait dire que c'est une pratique. Parfois, certaines personnes disent que c'est une discipline. En fait, je dirais une pratique qui a été inventée par un neuropsychiatre dans les années 60 qui s'appelait Alfonso Caicedo. Et dans les années 60, en psychiatrie, le même traitement était réservé à toutes les personnes. C'est-à-dire la camisole chimique, la camisole de force, les électrochocs et la trépanation et des choses beaucoup moins sympathiques.
Oui, c'était réjouissant tout ça.
Voilà. Et lui, il s'est interrogé à savoir que des dépressifs qui arrivaient, ça ne les aidait pas beaucoup. Donc, il était passionné de tout ce qui était relaxation dans le monde. Et il s'est intéressé à toutes les méthodes qui existaient. Donc ça a été le yoga, ça a été le zazen japonais, ça a été aussi l'hypnose, puisque à l'époque, Milton Erickson pratiquait déjà l'hypnose thérapeutique. Et il a testé sur ses patients. Et il a gardé tout ce qui apportait du bien-être à ses patients. Et c'est comme ça qu'il a fondé cette méthode qui est la sophrologie aujourd'hui. Donc c'est des mouvements doux associés à la respiration, c'est de la visualisation, de la relaxation profonde. Et je dirais qu'on travaille sur un état modifié de conscience qui ressemble à l'hypnose. C'est pour ça que moi, j'ai après fait une formation en hypnose, parce que je trouvais que l'outil hypnose, on était un peu sur les mêmes choses dans certains cas, et que ça pouvait être intéressant. Donc voilà ce que c'est que la sophrologie, en fait. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas essayé, c'est un peu nébuleux. Alors
Mais
si,
oui.
Aujourd'hui, avec les moyens d'Internet qu'on a, on peut voir des vidéos, on peut voir plein de choses. Après, il y a des courants sophrologiques qui sont différents. En fonction de là où on a fait notre formation, on va pratiquer la sophrologie de manière un peu différente. Et puis, il y a ce qu'est le sophrologue. C'est-à-dire que notre formation, elle est ce qu'elle est. Mais après, on y met soi, on y met des choses à nous. J'ai l'habitude de dire que nos formations, c'est un squelette. Et puis, toute la matière autour, ça vient de nous, comment on pratique ce qu'on a envie d'apporter aux gens, la manière dont on va fonctionner, tout simplement.
Donc, en fait, il y a autant de méthodes de sophrologie, finalement, qu'il n'y a de sophrologues, si on va au bout du raisonnement.
Si on va au bout du raisonnement, oui, on a une technique de base. Alors, les puristes les sophrologues caïcédiens, qui sont vraiment des puristes, hein, puisque eux appliquent vraiment la pratique telle que Alfonso Caicedo l'a. Et ils se revendiquent d'avoir la vraie sophrologie. Et je ne conteste pas du tout. Hein. Mais il y a d'autres courants sophrologiques qui vont pratiquer de manière un petit peu différente. On est toujours avec les mêmes choses, mais on va pratiquer un peu de manière différente. Et puis après, le sophrologue, lui, en fonction de ce qu'il est, il va faire passer des choses qui sont différentes, bien sûr.
Bien évidemment. Alors, vous êtes installé à Nevers.
Oui.
Vous êtes installée où à Nevers ?
Alors, je suis installée à l'espace du mieux-être, qui est situé 3 allée du docteur Subert. L'espace du mieux-être, c'est une association qui a ouvert ses locaux à des praticiens du bien-être. Donc, on est plusieurs praticiens avec des techniques complètement différentes. Hein. Il y a des massages, il y a de la naturopathie, il y a une psychologue, il y a de la médiation familiale, il y a la pratique des bols tibétains.
Oui.
Voilà, donc on est tous là. Et moi, j'interviens dans l'espace pour tout ce qui est rendez-vous individuel.
Rendez-vous individuel, vous ne faites pas de collectif.
Après, moi, j'ai des ateliers en extérieur, puisque j'interviens aux APF, j'interviens dans certaines EHPAD. Et par contre, en rendez-vous individuel, je suis conventionnée par Sprance Victime 58, donc j'accueille, moi, des victimes.
Aussi, d'accord. Aussi. Comment se déroule une séance de sophrologie pour toujours expliquer à nos auditeurs ce à quoi on doit s'attendre ?
Alors, avec moi ?
Avec vous, oui, bien sûr. On a compris que chacun, ça peut être différent pour chacun.
Alors, avec moi, d'abord, la sophrologie, ce n'est pas une séance et puis au revoir.
D'accord.
D'accord ?
C'est un travail
suivi, voilà. Alors, c'est pas, on ne va pas faire un suivi toute sa vie, bien que dans certains cas, je peux avoir des gens que je vais voir très longtemps. Mais en général, non, c'est plus court. Hein. La première séance, on fait connaissance. Donc, la personne va venir me dire pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle attend. Et puis, moi, je vais lui poser plein de questions, etc. Je commencerai peut-être même, si c'est pour de l'anxiété, c'est souvent pour ça qu'on vient
voir.
C'est
souvent le premier motif de consultation.
C'est l'anxiété, c'est le stress. Après, je vais leur expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et pourquoi on réagit comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a une crise de panique ? Pourquoi est-ce qu'on a le cœur d'un seul coup qui bat ? Pourquoi est-ce qu'on a les mains moites ? Pourquoi est-ce qu'on a des trous de mémoire à prendre la parole en public ou passer son permis de conduire ? Pourquoi est-ce que la veille, c'était chouette, hein ? Tout allait très bien. Et le jour J, on rate son permis de conduire. Tout simplement parce que c'est des mécanismes de défense de notre cerveau. Et moi, je pense que à partir du moment où on comprend ce qui se passe et pourquoi ça se passe, déjà, c'est beaucoup plus facile à maîtriser.
D'accord. Donc déjà, comprendre ce qui se passe en nous.
Ouais. Je pense que la pédagogie, elle aide beaucoup quand même.
Oui.
Et puis ensuite, on va travailler sa respiration, on va travailler en relaxation profonde, on va travailler sur de la visualisation, et c'est là où l'outil hypnose est sympathique, parce qu'on va pouvoir, en état modifié de conscience, aller travailler certaines choses où il peut y avoir des blocages et des choses comme ça.
Très bien. Pour continuer sur cette partie d'émission, vous qui êtes sophrologue, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer justement comment aujourd'hui se construit l'être humain. Vous parliez en préparant l'émission de ces deux catégories qui s'opposent finalement, mais qui font qu'aujourd'hui, on a, pour des raisons différentes, des personnes qui sont très anxieuses, peuvent avoir des difficultés, et finalement que ça guide aussi ce que l'on est dans sa vie.
Alors, déjà, ce qu'on est, ça vient pas comme ça par hasard. C'est-à-dire que ça va venir de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. J'ai l'habitude de dire que on est avec un sac à dos de la vie sur les épaules. Et que dans ce sac à dos, il y a les casseroles des parents, puis il y a les gros chaudrons des arrière-grands-parents.
Ce sont des chaudrons, carrément.
Donc
ça veut dire que l'enfant qui vient au monde, il porte déjà ça ?
Il va porter ça parce que l'enfant se construit dans l'enfance en observant les adultes.
Oui.
Et en fait, si il a des parents très anxieux ou si la mère est anxieuse, par exemple, comme, moi, je vais peut-être en faire bondir quelques-uns, mais moi, je pense qu'on reste des animaux avec une grosse conscience et qu'on a une grande partie encore d'animalité en nous.
D'accord.
Et un bébé qui vient à la naissance, il n'a aucun moyen de communication à part les pleurs. Et il n'a aucun moyen de comprendre son environnement à part observer la mère comme une portée de lionceau qui va savoir s'il y a du danger ou s'il n'y a pas du danger en regardant les attitudes de la mère. Ben nous, on est pareil. On va regarder l'attitude de la mère et si on a une mère qui est très protectrice, qui nous dit qu'il y a du danger partout, qui elle-même est anxieuse, on va développer de l'anxiété.
D'accord.
Voilà. Tout simplement.
Tout simplement.
C'est bête, hein, mais c'est comme
tout
ça.
Bête.
Et du coup, bah, on ne comprend pas parce qu'on part en roue libre sur l'anxiété, ça développe des choses et on se trouve complètement démunis. Et à un moment donné, bah, je vois, moi, le stress comme un millefeuille. Donc, petit à petit, on a des feuilles de stress qui se posent. Alors, il y a du bon stress, hein, faut pas enlever le stress. Hein. Mais il y en a du plus mauvais. On peut être stressé sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, j'ai un rendez-vous. Rien que le fait de regarder la montre et de dire « il faut que j'y aille », etc., ça développe un stress. Et ces feuilles de stress, bah, il faut souffler dessus. D'où la sophrologie qui est intéressante pour enlever des feuilles de stress. Parce que si on n'enlève pas les feuilles de stress, petit à petit, bah, on arrive à... Ça explose, quoi.
Et garder les feuilles de stress, finalement, si je reprends votre expression, qui sont plutôt positives
oui.
Parce qu'il y a aussi le bon stress aussi.
Il y a du bon stress. Et puis, dans ce millefeuille de stress, ben, on a un gros paquet de stress, là. On a un gros paquet d'anxiété, un gros pavé. Et ça, ben, des fois, la sophro, ça ne suffira pas. Et il faudra y aller avec un marteau-piqueur. Et là, c'est plutôt le boulot du psychologue ou du psychiatre.
D'accord. Bon, alors voilà pour la sophrologie. Florence Gouriz, je vous propose que nous marquions une première pause musicale dans notre émission. Nous allons continuer à parler de sophrologie, mais dans un cadre un petit peu différent, qui est celui de la maladie d'Alzheimer. Et on se retrouve dans quelques instants. J'aimerais que vous puissiez nous dire ce que vous souhaitez faire écouter à nos auditeurs.
Alors, j'ai choisi Happy de Pharrell Williams parce qu'elle fait partie des musiques qui me redonnent la pêche.
Oui, je dirais beaucoup de gens d'ailleurs.
Voilà. Et que voilà, ça fait partie des musiques qu'on met facilement avant de faire le ménage quand on n'a pas très envie de le faire.
D'accord. Voilà. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Retour dans un instant.
By the way, because I'm happy. Clap along if you feel.
l'écho du territoire, tout de suite, la suite.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire, consacrés aujourd'hui à Florence Gouris, qui est sophrologue à Nevers et présidente de France Alzheimer. Florence, donc vous êtes avec nous pour cette deuxième partie d'émission. J'aimerais justement que vous nous parliez de la façon dont vous utilisez la sophrologie en groupe pour les malades d'Alzheimer. Ce n'est pas tout à fait la même façon de pratiquer. Et puis ensuite, on va parler justement de cette maladie sur cette partie d'émission.
Alors, comment je pratique ? Pratiquer la sophrologie, alors ça se pratique, hein. Ça se fait, mais j'intègre aussi des choses dans les ateliers de sophrologie avec les malades d'Alzheimer parce que je pense qu'il faut aussi faire travailler toutes leurs capacités restantes. Et donc, du coup, je me sers de la chanson. Donc, on va avoir toujours ce qu'on appelle, nous, les relaxations dynamiques, c'est-à-dire toujours ces mouvements doux associés à la respiration en début. Une séance, c'est d'abord, on se dit bonjour.
Ah !
Voilà. On se reconnaît.
Oui.
Parce que les malades d'Alzheimer, quand j'arrive, ils ne savent pas pourquoi je suis là, même si je les ai vus la semaine d'avant. Ils ne savent pas ce qu'on va faire, mais ils savent qu'on se connaît.
D'accord.
Voilà. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne nous reconnaît plus, n'est plus capable de dire qui on est. Voilà, je ne sais plus ma fille, je ne connais plus son prénom. Mais la personne, elle sait toujours que le lien est là et que c'est une personne, ok, là ça va. Et ça, c'est un lien, moi ce que j'appelle le lien émotionnel. Ce lien, il se construit avec des personnes Alzheimer, même dans le pire de la maladie. Ce lien émotionnel, il commence. C'est le premier lien du bébé à la mère et à son environnement. Et c'est le dernier lien qui va subsister dans la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, donc on se dit bonjour. Moi, j'apprends leur prénom. Et des fois, j'ai des trous, donc ça les fait bien rire.
À égalité, du coup.
À égalité. Mais voilà, ils sont contents d'être connus. Et puis, ensuite, on va faire ces mouvements doux. On va discuter un peu, faire ces mouvements doux. Et puis après, on va travailler sur des chansons. C'est toujours les mêmes chansons. Toujours dans le même ordre.
D'accord.
Voilà. Au début, alors c'est un CD particulier. Au début, on a quelques notes à la flûte de Pan. Et puis, ça s'arrête. Donc, on va commencer à... Est-ce que vous reconnaissez ? Est-ce que les paroles viennent ? Est-ce que vous vous souvenez du titre ? Après, on a le refrain, la flûte de Pan, et puis après, on écoute l'original. Et ensuite, derrière, alors, est-ce que vous vous souvenez de l'auteur de cette chanson ? Voilà. Et ça ouvre à des discussions, à des souvenirs, à tout ça. Pourquoi est-ce que c'est toujours les mêmes chansons, dans le même ordre ? Parce que les malades d'Alzheimer, comme tous les humains, hein, les humains ont besoin, notre cerveau a besoin de routine pour se sentir en sécurité. Et les malades d'Alzheimer encore plus. C'est-à-dire que dès que plus rien, la routine maintient la maladie. Très souvent, on a des gens, ils sont chez eux, il y a des troubles, on le voit, ça diminue tout doucement. Et puis, bah, ils font des chutes, ils vont à l'hôpital et quand ils reviennent, les familles disent « Ah là là, mon Dieu, mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait à l'hôpital, il est complètement perdu. » Voilà.
Oui.
Parce que, non, les routines ont maintenu, on n'a pas vu la dégradation véritable de la maladie, on la voit quand il est
donc à la faveur d'une hospitalisation où là, la personne va perdre ses repères, en fait,
oui,
finalement,
oui,
c'est ça. Hein.
Oui.
On a l'impression qu'il y a en fait une dégradation de l'état de santé de son parent suite à une hospitalisation, mais en réalité, c'est justement l'absence de routine qui a fait...
Qui fait apparaître véritablement,
voilà. D'accord.
En fait. Hein.
Okay.
Ils ne sont plus capables de s'adapter. Voilà. Donc, moi, j'ai établi une routine. Alors, je l'ai dit... Ma façon de faire, hein, elle a été testée. Et au début, quand j'ai testé ça dans une maison de retraite, moi, ça me frustrait de passer toujours la même chose. Puis je ne retrouvais pas un autre CD qui fonctionnait de cette manière-là. Donc, j'essayais de changer, voilà, de mettre une autre chanson. Et j'ai bien vu que ça ne convenait pas du tout.
Bien sûr.
Parce qu'eux, ils ne se souviennent pas de la semaine dernière. Si on a passé telle chanson dans cet ordre-là, et si on a chanté, non, ils ne s'en souviennent pas. Donc, pour eux, c'est... le cerveau, il est OK, là, ça va bien. Ils ne se souviennent pas, mais le cerveau, il sait, lui, que tout va bien. Donc, en plus, petit à petit, et ça, ce n'est pas que moi qui l'ai constaté, hein, ils apprennent les paroles.
D'accord, donc on mobilise la mémoire, quand même.
Les paroles sont là. Et là, on a des chansons où on commence juste le refrain. Et hop, c'est parti. Et là, a cappella, tout le monde chante. Et on chante très loin dans la chanson. Voilà, ce qui fait que moi, c'est perturbant pour moi. Parce que derrière, moi, j'ai le refrain qu'elles ont déjà chanté. Donc,
voilà. Vous ne pouvez pas tout choisir non
mais
plus.
Je ne peux pas tout, voilà. Mais on sait que la chanson, c'est magique pour les personnes d'Alzheimer. Ça mobilise tellement de mémoire dans le cerveau.
D'émotions aussi,
ça mobilise l'émotion, c'est la mémoire des souvenirs qu'on a. Ça fait travailler la respiration, puisqu'on va chanter. La vibration des cordes vocales aussi, elle a une incidence sur la physiologie. Donc, c'est magique la chanson.
Merci en fait pour cette explication de la sophrologie que vous utilisez donc auprès des malades d'Alzheimer. J'aimerais, comme on est quand même dans une émission économique et dans un territoire qui, comme partout en France, mais peut-être un peu plus, souffre de difficultés d'accès aux soins. En tant que présidente de l'association France Alzheimer, j'aimerais que vous nous expliquiez où nous en sommes dans la Nièvre sur la prise en charge de nos malades d'Alzheimer, de leurs familles. Comment ça se passe actuellement ?
Alors, je suis présidente de France Alzheimer Nièvre. Je rajoute Nièvre parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts parce que je ne fais pas du tout présidente du national. Puis heureusement d'ailleurs, parce que je ne pourrais pas. Je n'ai pas le temps. Hein. Nous, on a un souci. Nous, en tant que France Alzheimer Nièvre, c'est que finalement, on a un gros titre. Mais on est une toute petite association parce qu'on n'a pas assez de bénévoles.
Ça, voilà. C'est pas une surprise, hein, parce que aujourd'hui, nombre d'associations manquent de bénévoles.
Voilà.
Donc, vous n'échappez pas à cette règle.
On est une petite dizaine de bénévoles, et pour la majorité, encore, je dis une petite, très petite dizaine, la majorité, on est encore en activité professionnelle.
D'accord.
Donc voilà, on fait
peu
vraiment
de temps aussi à
peu
consacrer.
De temps à consacrer, mais on fait vraiment tout ce qu'on peut et toutes les activités puisqu'on a sur 4 semaines, on a 3 activités, une par semaine, et ça c'est une fois par mois, on retrouve toutes ces activités. On consacre du temps à l'information des aidants, à les recevoir. J'aimerais bien, moi, pouvoir avoir suffisamment de bénévoles qui, pour dupliquer ce qu'on fait sur Nevers et Agglo, les dupliquer à d'autres endroits de la Nièvre.
Donc l'appel est lancé sur nos ondes. Si vous avez le temps et le souhait de vous engager auprès des malades d'Alzheimer, n'hésitez pas à contacter Florence Gouris, la présidente de France Alzheimer Nièvre. On parle vraiment de la difficulté d'accès aux soins. On est dans un temps économique et politique quand même relativement turbulent. Quels sont les impacts que toutes ces turbulences occasionnent pour les malades d'Alzheimer, pour leur prise en charge?
Tout ce que ça va faire, c'est la même chose que la prise en charge pour tous les malades, globalement.
Globalement,
oui. On est sur la même chose, c'est-à-dire que pour l'instant, il ne se passe plus rien. Tout est à l'arrêt. Il y a tous les projets qui pouvaient être sur la table, sur toutes les pathologies. On n'en parle plus. C'est nous, en Nièvre, mais malheureusement, on n'est pas le seul département. Où il n'y a plus de médecins traitants, où il y en a de moins en moins. Et quand on a une personne Alzheimer à la maison qui n'a plus de médecins traitants, c'est très, très compliqué. La prise en charge, c'est manque de moyens dans les EHPAD et manque de subventions. C'est manque de personnel et pas assez de personnel pour de plus en plus de résidents qui arrivent en EHPAD et qui sont... on est vraiment sur du pathologique quand on arrive en EHPAD. Aujourd'hui, voilà. Et tant mieux, on garde à la maison de plus en plus, mais quand on rentre en EHPAD, c'est qu'il y a vraiment...
Il y a besoin d'une assistance médicale. Absolue, oui.
Et là, il y en a de moins en moins.
Oui, donc c'est assez contradictoire. C'est-à-dire qu'effectivement, on arrive à maintenir à domicile plus longtemps qu'avant, mais lorsque l'on est en EHPAD, on a véritablement besoin d'une prise en charge médicale que les EHPAD ne sont pas forcément aujourd'hui en mesure de fournir convenablement.
Non, par manque de personnel, par manque de subventions, donc par manque de personnel, par manque... Voilà. C'est pour toutes les pathologies, c'est comme ça, mais c'est le constat. Et puis, on est sur la volonté de garder les personnes malades à domicile le plus longtemps possible. Ça, c'est une volonté gouvernementale, avec pas beaucoup de moyens aussi. C'est-à-dire, pour avoir quelqu'un de malade à domicile, ça nécessite beaucoup de prise en charge. Et faut trouver des associations d'aide à domicile. Faut trouver tout un tas de choses. Et c'est compliqué.
C'est lourd pour les aidants aussi.
C'est très compliqué.
C'est lourd pour les aidants également.
C'est très lourd pour les aidants.
Oui. Okay. Je vous propose que nous marquions une nouvelle pause musicale avant de nous retrouver sur la dernière partie de cette émission. Et je vous laisse nous faire découvrir ce que nous allons écouter.
Alors, c'est « Parlez-moi d'amour », une chanson de Lucienne Boyer. Et ça fait partie des chansons que mes résidentes chantent toutes les semaines et qu'elles chantent de mieux en mieux. Voilà, je voulais vous faire partager ça.
Eh bien, on se retrouve dans quelques instants.
Merci.
Les rendez-vous de l'écho du territoire, tout de suite, la suite.
Parfois trop amère, si l'on ne croit pas aux chimères, le chagrin des vies s'apaisit et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. N'est pas là de l'entendre, pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime.
les rendez-vous de l'écho du territoire. Tout de suite, la suite.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire consacrés aujourd'hui au bien-être avec la sophrologue Florence Gouris mais aussi nous avons parlé de la maladie d'Alzheimer puisque vous êtes présidente de France Alzheimer Nièvre. Cette troisième partie, elle vous est consacrée et comme quasiment tous nos invités, j'aimerais déjà que vous puissiez expliquer à nos auditeurs ce que vous rêviez de devenir lorsque vous étiez petite. Je crois qu'on commence par la même question sur cette partie-là. Vous m'avez dit tout à l'heure, vous posez la même question à vos patients.
Exactement.
Donc voilà.
Alors, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite? Moi, quand j'étais petite, enfin plutôt à l'adolescence, je voulais être assistante sociale. Mm-hmm. Voilà, je voulais aider les autres, en fait, finalement. Et puis, j'ai passé le concours d'assistante sociale, hein, mais je l'ai raté, bien sûr. Puis, je sortais d'un bac G1 pour les plus vieux. C'était sténodactylo, ça fait sourire quand je dis ça à des jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, parce que sténodactylo, ça n'existe plus du tout.
Ah non, il y a quelques métiers qui disparaissent.
Voilà. Et puis, c'est l'époque où on se met en couple et où il faut voler de ses propres ailes et il faut avoir un travail alimentaire. Et je suis rentrée dans une petite, dans une usine de manutention, en tant que manutentionnaire d'ailleurs. Je suis passée à peu près par tous les postes dans cette entreprise. Et je suis sortie de cette entreprise avec... alors, j'avais ni le salaire, ni le statut, mais j'étais assistante de direction. Et je suis partie de cette entreprise parce que je suis devenue maman. Mmh. Et que, ayant eu une mère poule,
ah.
Je suis devenue mère poule.
Si on revient à la première partie
exactement,
de l'émission.
Mais de toute façon, oui. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à laisser mes filles être gardées par quelqu'un d'autre. Donc, quand la deuxième est arrivée, j'ai pris un congé parental. Et à la fin du congé parental, j'ai dit, moi, j'y retourne pas, je veux garder, je veux rester avec mes filles. Mais il fallait toujours...
Il y a toujours une obligation alimentaire.
Voilà. Et donc, je suis devenue nounou.
D'accord.
Et j'avoue que ce métier est un métier fabuleux parce qu'on apprend tellement de choses sur l'être humain. Et puis, à une période de ma vie, il se passe plein d'événements. Et notamment, maman est diagnostiquée d'Alzheimer. Et je connaissais la pathologie puisque ma grand-mère paternelle l'avait eue. Donc, je savais où on allait.
D'accord.
Et mon père étant handicapé, je savais qu'il ne pourrait pas être l'aidant principal, qu'il n'y arriverait pas tout seul. Et les événements font que, du coup, je me rapproche géographiquement de mes parents et que je vais les accompagner jusqu'à la fin de leur jour. Mais pendant cette période, je me suis interrogée et je me suis dit, j'avais les contrats de nounou s'étaient arrêtés. Hein, mm-hmm. Et je me disais, ok, c'est bien de s'occuper de ses parents et je ne regrette absolument pas. Mais ils vont décéder à un moment donné. Tu vas arriver à nouveau sur le marché du travail. Tu auras 50 ans et plus, donc tu vas arriver à Pôle emploi ou à France Travail maintenant.
En tant que senior.
En tant que senior. Et on va te dire, qu'est-ce que vous avez fait, madame? Et quand tu vas voir, on va...
Bon. Oui, parce que aidant familial, quand on s'occupe de ses parents ou de ses enfants qui sont en situation de handicap, aujourd'hui, c'est pas une expérience qu'on peut faire reconnaître aussi facilement que ça. Même si les choses s'améliorent, on commence à mettre des mots sur ce qu'est être aidant familial, mais c'est quand même pas...
Tout comme assistante maternelle. Hein.
Oui, oui, aussi.
Voilà. Bon, moi, je me cumulais les deux, pour le coup.
Oui, là, vous aviez fait...
Voilà. Voilà. Et donc, du coup, je me pose la question en me disant, mais qu'est-ce que tu aimes faire, toi? J'aime aider les autres.
Oui.
Et comme moi, je commençais à m'intéresser à la sophrologie et je faisais de la sophrologie en groupe, en tant que cliente, et donc du coup j'envoyais les bénéfices quoi. Même si au tout début, je me souviens qu'au tout début, je me suis dit waouh, ce truc là c'est pas pour moi. Mais finalement, j'avais payé pour 10 séances, donc j'ai fait mes 10 séances, et qu'au milieu, je me suis dit waouh, mais c'est puissant quand même. Donc, j'ai fait une formation de sophrologue, et c'est comme ça que 10 ans plus tard, je suis en face de votre micro.
Ça fait 10 ans que vous exercez.
Ça fait 10 ans.
D'accord. Pas de regrets, de fait?
Non. Mais aujourd'hui, comme tous les métiers, hein, et vu la situation actuelle, de temps en temps, on se pose des questions, hein, à savoir si on va continuer, si ça vaut le coup, si c'est de plus en plus difficile.
Oui.
Mais souvent, je m'interroge et je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire d'autre ? Parce qu'en fait, c'est là où tu es bien, c'est là où tu es à ta place.
Vous avez trouvé votre, voilà, votre fonction, oui, votre utilité aux autres.
Voilà.
Pour reboucler quand même un peu sur la partie économique, c'est vrai qu'aujourd'hui se développent toutes les pratiques bien-être. Mais finalement, beaucoup de pratiques différentes, certaines reconnues, d'autres pas reconnues. Et on a un peu l'impression qu'il suffit parfois de faire une formation en ligne d'un week-end pour pouvoir se dire praticien dans un domaine. Ce qui n'est pas forcément aidant pour se repérer quand on a besoin de consulter, savoir en fait qui aller voir et quelle pratique plutôt que telle autre. C'est aussi quelque chose qui vous fait vous interroger ?
Alors oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a beaucoup... Alors bon, au niveau de la sophro, hein, il y a beaucoup de formations. Il y a beaucoup de formations qui sont faites en ligne et qui ne sont pas du tout faites en présentiel.
Oui.
Moi, à mon avis, il faut quand même avoir un minimum eu de présentiel pour bien comprendre la sophrologie et bien l'aborder. Je pense que c'est, voilà, c'est important. Il faut avoir quand même une bonne formation qui est reconnue. C'est le client, il doit, lui, aller voir, mais pas dire « Ouais, ok, elle est sophrologue et j'y vais et tout va bien. » C'est vraiment son ressenti personnel. C'est-à-dire que si, au bout de la première séance, il n'est pas bien, bah, il ne continue pas. Voilà, moi, je le dis régulièrement. Hein. Je dis au premier entretien, à la première séance, vous avez le droit à la fin. Quand je vous dis « Bon, alors, quand est-ce qu'on se revoit ? Est-ce qu'on reprend rendez-vous ? » Vous avez le droit de me dire non, parce que bah, je ne suis peut-être pas la bonne paire de chaussures. Les sophrologues, comme les psychologues, comme toutes les personnes du bien-être, on est comme des paires de chaussures. Parfois, il faut en essayer plusieurs pour trouver la bonne. Voilà. Et je ne suis pas la paire de chaussures de tout le monde. Donc, il ne faut pas jeter la sophrologie aux orties. Il faut juste aller voir une autre sophrologue et peut-être qu'il conviendra mieux. Parce que moi, dans ma façon de pratiquer, ça convient à des personnes et puis peut-être pas à d'autres. Et tout va bien. Moi, je suis OK avec ça, quoi. Mais oui,
ça peut.
Faut être quand même méfiant et faut faire confiance à son instinct et à son ressenti et pas pour apprendre argent comptant tout ce qu'on va nous raconter.
D'accord.
Vraiment.
Garder une certaine mesure et distance.
Oui, oui.
D'accord. Bon, ça c'est pour le conseil à nos auditeurs. Avant de nous quitter, puisque nous arrivons au terme de cette émission, Florence Gouris, j'aimerais que vous nous disiez, on va reparler un tout petit peu d'Alzheimer, quels sont vos points d'espoir pour cette maladie ? On sait que dans notre société, on attend beaucoup de la recherche, on attend beaucoup de la prise en charge de cette maladie qui touche de plus en plus de Français. Est-ce que vous avez un petit mot d'espoir à nous donner sur ce plan-là ?
Je pense que de l'espoir, il faut toujours en avoir. Et c'est pour ça que toutes les fondations qui existent, les fondations de recherche, elles ont l'espoir de trouver quelque chose. Et ça avance tellement lentement, on est bien d'accord.
Oui.
On voudrait que ça aille beaucoup plus vite, mais ça avance. C'est comme le Téléthon. Il y a des avancées, mais ça a mis combien d'années ? Donc, tout le monde cherche. Pour l'instant, on trouve des pistes, mais on n'a pas encore compris pourquoi. On sait comment la maladie se développe dans le cerveau, mais on ne sait pas encore complètement pourquoi.
Et donc, tant qu'on n'a pas trouvé le pourquoi, c'est difficile de trouver des remèdes.
Et aujourd'hui, on a une molécule qui, a priori, aurait des efficacités, mais qui a de graves effets secondaires. Donc, pour l'instant, elle n'a pas encore passé le barrage de... Ça y est, j'ai perdu le mot. Alzheimer me guette.
Ah là, oh là 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 là.
Elle n'a pas encore passé le barrage des autorisations. Des autorisations de mise, voilà. Mais elle arrivera, de toute façon.
Elle arrivera.
Voilà. Donc, voir.
Des avancées quand même au niveau de la recherche.
Des avancées quand même. Et je pense qu'on va... on en aura. Il y a des avancées dans toutes les pathologies qui ont été très compliquées. Donc, il y en aura. Pour nous, je ne sais pas.
D'accord. Merci Florence Gouris d'avoir été l'invitée de ce rendez-vous de l'économie du territoire un peu particulier.
C'est moi qui vous remercie de votre invitation.
Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Chaque mardi, retrouvez en exclusivité sur NVS Radio un acteur économique de notre territoire. Les rendez-vous de l'économie du territoire, c'est tous les mardis à 19h sur NVS Radio.